Vous êtes bien sur le 93.9 FM, vous écoutez RNG.
First, the basics of particle blast deflection.
Dude, I could beat gaming.
Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de RNG, vous êtes bien sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Aujourd'hui, je suis en compagnie, comme depuis 29 épisodes, de mon ami Ulysse Combasson. Comment ça va, Ulysse ?
Ça va très bien, ça faisait longtemps !
Ouais, ça fait un bail, ça fait un bail, ça fait quoi ? Ça fait 2 mois peut-être, là, depuis...
Je pense, hein.
2 mois et demi à peu près, je
crois. C'est quoi le dernier sujet qu'on avait évoqué ?
Esthétique et DLSS5.
Exactement.
C'est ça, quoi, tu vois, je m'en souviens même pas, comme quoi c'est un signe que ça fait un bail. Oui, ça fait longtemps parce que il y a des choses qui arrivent dans la vie qui font que, voilà, pour des raisons personnelles,
s'est un peu éloigné des micros.
Voilà, on a dû s'éloigner un peu des micros pour... Mais sinon, tout va bien, on est de retour, et on est le 27 juin. Et ce n'est pas le dernier épisode de la saison. Le dernier épisode de la saison arrivera du coup le 23 juillet, normalement. Ce sera du coup pendant la grille d'été chez Radio Campus Paris, pour essayer vraiment de vraiment conclure cette saison tranquillement. Mais du coup, trêve de bavardage, sujet du jour. Et on est en juin, et qui dit juin dans le jeu vidéo dit, comme depuis très longtemps, c'est la tradition, dit conférence, et voilà, c'est un peu le rendez-vous annuel. C'est un moment hyper, hyper important. Peut-être le mois le plus important de l'année chez les joueurs.
Chez les joueurs, ouais.
Franchement, c'est le moment où on se retrouve tous. C'est un peu une sorte de
grande messe.
Voilà, on se retrouve, et dont Geoff Keighley est le prêtre maintenant. Donc voilà, on s'est dit que ce serait un... Ça fait un moment qu'on se posait cette question de ce sujet. On s'est dit que là, c'était le moment parfait avec, du coup, la Summer Game Fest. On a eu la conférence... on a commencé avec PlayStation, début juin, avec un State of Play de 1 heure. On a eu ensuite le Summer Game Fest, le Xbox Game Showcase et un Nintendo Direct dans l'espace d'une semaine, même pas, une semaine, 10 jours. On a eu tout ça, donc ça faisait plusieurs heures de contenu, de trailer, toutes ces choses-là, mais c'est un peu le sujet du jour, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur les conférences de jeux vidéo en général, mais je sais que c'est Ulysse qui va introduire le sujet aujourd'hui. À toi, let's go.
Et bien justement, donc, pour parler de conférences, moi déjà j'aimerais qu'on se pose la question de pourquoi il y a des conférences de jeux vidéo ? C'est quoi une conférence ? Est-ce que ça se mange ? Tout ça, on va en parler. Mais déjà, on va se poser la question de pourquoi il y a des conférences publiques qui marchent vraiment, qui font de l'audimat, de l'audience dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo et les joueurs en général, ça va être un postulat de départ, je pense que tout le monde va admettre, c'est un médium qui a eu besoin de reconnaissance. Les joueurs ont besoin de reconnaissance. Si on parle du JV comme du 10e art actuellement, comme beaucoup d'art multimédia numérique, il y a eu 2 virages que je me suis noté pour au moins l'introduire, qui sont donc en France, il faut quand même se dire qu'il a fallu attendre 2006. En gros, c'était donc le ministre de la Culture à l'époque qui a remis donc les insignes de chevalier de l'ordre des arts et des lettres à des créateurs de jeux vidéo, dont Miyamoto, donc Shigeru Miyamoto, Michel Ancel et Frédéric Reynal, qui avait travaillé sur d'autres trucs que je connaissais pas trop. Et donc, c'était la première fois qu'un État validait officiellement le jeu vidéo comme une forme d'expression artistique et culturelle. Donc, vraiment, et ça a permis, je crois, de créer donc, le crédit d'impôt jeu vidéo. Enfin, vraiment, c'était une date un peu importante, voilà, donc en 2006. Et en 2011, aux États-Unis, pareil, il y a eu une affaire historique qui, en fait, interdisait la vente de jeux vidéo violents aux mineurs sans accompagnement parental. Et là, en fait, la Cour suprême a décrété que les jeux vidéo sont protégés par le premier amendement. Même titre que les livres, les pièces de théâtre ou les films, leur reconnaissant officiellement le statut d'art, en fait. Donc c'est une loi qui, voilà, pareil, a reconnu, entre guillemets, que le jeu vidéo, c'est de l'art. Je vous dis ça parce que, du coup, c'est pour conscientiser que ces deux lois-là, 2006 et 2011, ça fait genre à peine plus d'une décennie, voire 20 ans, quoi.
Ouais.
Vraiment, là, cette année. Et donc, comme toute pratique, voilà, qui cherche une reconnaissance, il lui faut donc des instances, des espaces pour récompenser ou présenter ces artistes, ces œuvres, à la manière des Grammy pour la musique ou les Oscars pour le cinéma. Et c'est donc là qu'interviennent les conférences et les cérémonies comme les Game Awards, les Pégases, voilà, dans le jeu vidéo. Pour faire vite fait, donc une sorte de catégorisation un peu de ces conférences. Moi, j'ai mis qu'il y avait trois catégories. Il y a trois types de conférences. Il y a vraiment genre les salons grand public, voilà, les salons professionnels et les cérémonies de récompense. Si on devait vraiment diviser ça. Voilà. Si on voulait un peu là parler comme ça des salons majeurs actuels, là, je pense qu'avec celui-là, on peut les citer tous les deux. Voilà, il y a la Gamescom.
Tokyo Game Show.
Voilà, la Paris Games Week aussi, ouais. C'en est un. Voilà. Donc, c'est vraiment des grands salons. Je sais que la Gamescom, par exemple, c'est le plus gros salon actuellement ouvert au public. Il y a 320 000 visiteurs annuels. Donc, c'est vraiment une énorme zone comme ça, publique. Et il y a aussi des zones réservées aux professionnels, pardon. Je sais que Jules, donc Kael, qui vient souvent en fin d'année, il va chaque année pour Gamekult, pour les représenter. Et voilà, la Paris Games Week, ça aussi, on connaît, c'est depuis 2010. Apparemment, ça avait été fait pour concurrencer le Micromania Game Show. Et c'est vraiment, voilà, le rendez-vous français pour parler jeux vidéo, tester les nouvelles sorties, tout ça. Et le Tokyo Game Show, donc le TGS au Japon, qui lui a été fondé en 1996, qui est un peu un des plus anciens, un des plus vieux, et qui est centré sur le marché asiatique et les consoles de salon japonaises, donc Sony, Nintendo, Sega, et qui, voilà, qui est un vieux de la vieille, qui est encore là. Qui est encore là, contrairement à une conférence, qu'à un salon, qui a marqué le jeu vidéo d'une empreinte très très forte, et c'est l'E3, et je vais laisser Soul en parler.
L'E3, c'est la légende. C'est la légende, vraiment. C'est dans toutes les conférences, vraiment. Voilà, c'est le premier E3 a eu lieu en 1995. Et en fait, c'est un salon voilà, qui se déroule aux États-Unis. Il a eu plusieurs villes. On l'a retrouvé à Los Angeles, Santa Monica, Atlanta, mais toujours aux États-Unis. Et en fait, la raison de l'existence de l'E3, c'est parce que avant le salon majeur du jeu vidéo dans l'idée. En fait, ces instances de communication, on les retrouvait au CES. Quand voilà, des grosses marques voulaient avoir leur espace pour avoir un instant de promotion, un instant promotionnel, il fallait très souvent aller au CES, qui est encore aujourd'hui un salon majeur. Hein,
qui est le Consumer Electronic Show.
Voilà, où on retrouvait toutes les nouvelles technologies qui aujourd'hui, voilà, et rongé par l'IA, où vraiment toutes les technologies que vous allez voir, frigo, micro-ondes, robots, voilà, tout est lié à l'IA maintenant. C'est
ça a lieu en janvier, non?
Ouais, c'est ça, ouais. C'est en début d'année. Et donc, c'est vraiment un salon majeur qu'il est encore aujourd'hui. Et donc, en fait, pendant très longtemps, voilà, fin 80, début 90, le jeu vidéo avait quand même une place au CES, mais qui était quand même un peu mineur. Et en fait, ça a été vraiment une sorte de caprice de l'industrie du jeu vidéo. Et l'E3 est arrivé en 1995. Et il y a quelque chose qui est hyper important vis-à-vis de l'E3, c'est que il faut attendre très longtemps pour que l'E3 soit ouvert au public. Avant que ce soit un salon public, il faut vraiment attendre très très longtemps parce que, à la base, la raison de l'existence de l'E3, et là je cite Jason Schreier, qui est un grand journaliste jeux vidéo qui travaille pour Bloomberg notamment, qui dit que l'existence de l'E3, en fait, c'est juste pour mettre en connexion les professionnels. Parce qu'en 1995, il n'y a pas de marché digital du jeu vidéo. Il n'y a pas de PlayStation Store, il n'y a pas de Game Pass, de Nintendo eShop, ce genre de choses. Donc en fait, par exemple, on va prendre un acteur de l'industrie, on va prendre EA. Ils avaient, je sais pas, une nouvelle licence, un nouveau jeu, et il fallait en fait convaincre les acteurs du retail, j'ai pas le mot en français, mais voilà, les Walmart, les Best Buy, les GameStop, toutes ces entreprises-là, je sais pas, en France, ça peut être Carrefour, Leclerc, ce genre de choses, il fallait en fait convaincre ces gens-là de mettre en place des rayons pour vendre des jeux, en fait. Donc, il fallait les convaincre, et c'est ça un peu l'existence de l'E3, en fait. C'est avant même qu'il y ait des instances promotionnelles, où il y ait des trailers, où on va mettre en avant nos consoles, ce genre de choses, c'est vraiment des réunions entre des professionnels de l'industrie pour faire du business, quoi, tout simplement. Il fallait voilà, que telle entreprise convainque une autre entreprise de vendre du JV. Et l'E3 a eu vraiment de belles années au début. Il y avait un côté un peu... au début, c'était un peu le vilain petit canard, mais un peu comme l'industrie du jeu vidéo, le nombre de... La popularité a augmenté, c'est-à-dire qu'en 1995, on compte 38 000 professionnels. Et ça va monter petit à petit. En 99, on est à 40 000 professionnels. Et c'est vraiment en 2002, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de 2-3 majeurs après 99. Vraiment, le 3 majeur, c'est vraiment celui de 2002, où en fait, on va compter plus de 60 000 professionnels invités. et dont aussi la presse, hein, je parle de gens de l'industrie, mais la presse est bien évidemment un acteur majeur de ce nombre. Et du coup, 2002, 2003, 2004, voilà, c'est 60 000 professionnels, jusqu'à atteindre un pic en 2005 de plus de 70 000 professionnels invités lors de l'E3 2005. Et l'E3 va en fait être fermé au public jusqu'en 2015. Il faut attendre vraiment 2015 pour que l'E3 s'ouvre au random, voilà, si les gamers voulaient aller. Voilà, c'était pas que sur invitation, parce que tout simplement, dès 2009, l'E3 va commencer un peu à s'essouffler. On passe voilà, de 70 000 professionnels pardon, en 2005 à 41 000 en 2009, 45 000 en 2010, 46 000 en 2011. Donc ça s'essouffle un peu, ça stagne. Et vraiment, voilà, c'est en 2016 surtout que là, l'E3 va exploser. Parce qu'on va compter 50 000 professionnels et 20 000 personnes invitées du public. Donc 70 000 personnes, c'est un pic. 2017, pareil, plus de 80 000. 2018, 70 000 personnes. Et donc, en fait, voilà, l'E3, c'était... pendant très longtemps, ça a été vraiment l'instance de communication principale de l'industrie. C'est un moment réunion vraiment majeur où, tout simplement, les grandes marques, constructeurs ou autres, EA, Sony, Microsoft, Nintendo, utilisaient l'E3 pour promouvoir leurs nouvelles consoles, hardware ou software, tout simemplement. Et surtout, mais au-delà de ça, vraiment dans la culture du jeu vidéo, l'E3, ça devenait, comme on l'a dit au début, cette messe un peu du jeu vidéo, en fait, c'est un moment où tout le monde se rassemble. Moi, je me souviens même que quand j'étais adolescent, je sais pas pour toi, Ulysse, mais je regardais le live que faisait jeuxvideo.com la nuit, parce que voilà, se passait à Los Angeles, donc il y avait le décalage horaire. Moi, je me souviens, je regardais ça toute la nuit. C'était vraiment...
Je sais que l'E3, dont moi, je me rappelle le plus, parce qu'il était vraiment très fort de ma jeunesse, entre guillemets, c'est vraiment l'E3 2013. En fait, c'est quand il y a eu la présentation de la Xbox One et de la PS4.
Ouais.
Donc, c'est 2012 ou 2013, mais je pense que c'est 2013. Et ouais, genre, quand il y a eu l'enchaînement de conférences, donc Xbox en premier, qui présente la Xbox One, le four que c'est, où tout le monde est... Moi, je me rappelle, à l'époque, sur les forums, il y avait une espèce d'effusion de... Non, mais la console, elle est pas si moche. Est-ce que Kinect, c'est pas trop mal et tout. Bon, il n'y a pas beaucoup de jeux, mais on verra et tout. 500€, c'est un peu cher. Si on savait. Et Sony qui, genre, dans la foulée, parce que les conférences s'enchaînaient, c'était même pas, genre, se dire, il n'y avait pas, genre, une journée de décalage, c'était vraiment, genre, à quelques heures près, ils passaient sur une scène pour s'enchaîner, et d'un coup, vraiment, tu vois, donc, Sony qui débarque en disant, le $399, en mode, 100€ moins cher et tout, enfin, voilà, c'était vraiment un truc de ouf, et je me rappelle que ça m'avait vraiment mis sur le cul d'avoir, comme ça, ces annonces-là, les jeux présentés, de voir les journalistes et du coup de tu sais qui veulent voir rapporter à quoi ressemblent ces consoles là à quoi ressemble la Xbox One de près, la manette, la PS4, la nouvelle donc DualShock. Et non c'était un truc qui m'avait vraiment beaucoup marqué.
Il y avait pas de trailer, ça qui était intéressant, c'est que c'était vraiment, il y avait un mec sur scène et il y avait peut-être genre une image de présentation montée, un petit trailer, et ensuite il y avait vraiment la console sur scène, en fait. Il y avait vraiment la console sur scène, et il y avait vraiment un truc, surtout dans les années 2000, où l'E3 devenait un peu un show où parfois il y avait des gros guests qui venaient, genre on pouvait faire venir, je sais pas, Dwayne Johnson, Keanu Reeves en 2019 pour Cyberpunk 2077, ça c'est un moment qui a été un peu culte. Donc il y avait vraiment un truc où l'E3 quand même, même si bon, ça reste une instance promotionnelle, c'est genre vraiment des marques qui viennent et qui disent achetez mon truc, il y avait quelque chose d'assez organique quand même. Il y avait en fait la présence physique de l'E3 où ça s'enchaînait, voilà, le temps d'une nuit, les gros, surtout les conférences majeures. Il y avait quelque chose de... Il y avait un souffle, en fait. Il y avait une hype qui se créait. Et c'est quelque chose qui s'est perdu parce que l'E3 n'existe plus, tout simplement.
En fait, je pense que c'était un peu une machine à rêve. On en reparlera après, forcément, dans la conclusion et dans plein de choses vis-à-vis des nouvelles conférences. Mais c'est un peu quand tu cites, genre, Cyberpunk ou d'autres annonces, il y a un peu cet effet où tu peux faire une liste. J'ai vu, genre, je crois que Combini ou Jeux.com ou d'autres médias ont fait des listes de les 10 plus grosses annonces de l'E3. Et en effet, c'est des moments où les gens, ils sont en larmes, ils hurlent. Genre pour Twilight Princess en 2004, Nintendo qui présente le nouveau Zelda après Wind Waker, qui sortit bien des années après. Hein. Mais 2004, voilà, tout le monde pète son crâne avec un Link réaliste et tout. 2005, t'as la présentation de Killzone. Pareil, la PS5, on s'en souvient, ça vend monts et merveilles, très mensonger. Mais ça vend du rêve. En fait, il y a quand même ce truc de ouais, ça te vend quelque chose. Et pareil pour du coup 2015, j'ai mis E3 des miracles en mode... T'as Shenmue 3, donc ouais. Tout le monde se dit « Oh mon Dieu, ça arrive !» The Last Guardian et Final Fantasy VII Remake.
Ah ouais, non, ça
t'as
vraiment
genre
rien.
trois Arlésiennes d'un coup, on dit, ah, au fait, ça existe, et ça va sortir dans l'état que ça va être pour Shenmue 3. Et l'Asgardian qui a moins plu que d'autres jeux. Mais voilà, et ouais, 2019, Cyberpunk 2077, c'est quand même, genre, je pense, le cas Cyberpunk, même si on n'en a pas trop parlé dans l'émission, vite fait, c'est quand même, je pense, le dernier jeu qui, en termes de battage médiatique, a eu autant de hype en étant une nouvelle IP. Ouais. Qui n'était pas un Zelda, qui n'était pas un GTA.
C'est l'une des campagnes marketing les plus agressives de l'histoire.
C'est fou. Tu vois, genre vraiment, ça te promettait. Tout le monde se disait, ah, vraiment, on va pouvoir faire tout ça dans le jeu. Genre, on va vraiment. T'as l'impression qu'il y avait une liberté totale. Mm-hmm. Et la présentation de l'E3, la toute première, quand t'es dans Night City avec la foule et tout, personne n'avait jamais vraiment vu ça, même moi. Alors que maintenant, le jeu, ce qui est très drôle, c'est qu'il est même plus beau que la démo qu'il y avait à l'E3. Mais à l'époque, c'était une folie. Et donc, pour moi, il y avait un peu ce truc où, ouais, c'était le. Pour moi, il était représentatif d'une époque où on rêvait de jeux, tu sais, de trucs qui paraissaient techniquement impossibles. Mmh. T'avais l'impression qu'on pouvait pas tout faire dans le jeu vidéo. Je pense qu'il y avait encore aussi un gap technique qu'on n'avait pas creusé avec, bah, du coup, là, maintenant, les PS5, Series X, qui sont quand même beaucoup plus musclés. Et maintenant, avant, il y avait cette sensation que, ah, on voit quand même des limites sur une PS4 ou une Xbox One, ou même avant ça, une PS3. Donc, comme on avait ces limites techniques de jeux qui tournaient très mal sur la génération PS3 360, d'un coup, on te présentait des mondes. Genre même, je crois que Watch Dogs, c'est le 3 aussi, ça t'est présenté, d'Ubisoft. Pareil, annonce où encore 15 ans après...
L'annonce encore de la gueule.
T'as l'impression que personne s'est remis de Watch Dogs. Tu sais, quand tu parles d'une démo de l'E3, pendant des années même, Ubisoft a perdu en crédibilité à cause de ça. Parce que les gens ont perdu confiance en Ubisoft. Et je suis même persuadé que ça touche encore son image. Il y a un inconscient collectif de ce qu'on nous a promis avec Watch Dogs et ce que le jeu a été à sa sortie. Ça n'a jamais été vraiment le fruit vendu. Et du coup, il y a une forme de méfiance depuis qui ne s'est jamais, je pense, dissipée. Donc le 3, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment une machine à rêve. Et malheureusement, ça a dû s'arrêter.
Ça a dû s'arrêter, oui. Tout simplement, Covid. Covid, mais en plus de ça, j'ai envie de rajouter aussi l'aspect, pour reciter Jason Schreier, ce truc-là que je disais au début autour du fait que c'est aussi des réunions entre professionnels pour justifier, voilà... demander au retail de mettre en avant les jeux dans les rayons, ce truc-là, en fait, il s'est totalement retiré de l'E3. Pourquoi ? Parce que le marché du jeu vidéo s'est beaucoup digitalisé, tout simplement. Et en fait, avec l'apparition des stores en ligne, des Game Pass, des services, ce genre de choses, il y avait déjà le marché du physique qui prenait un coup, il y avait déjà un peu plus de bataille entre le physique et le digital. Donc, tout de suite, l'intérêt de l'E3 perdait un peu d'un point de vue purement de professionnel à professionnel. Et après, en termes de communication, là, tout de suite, c'est vraiment du coup la foudre qui tape deux fois au même endroit. C'est-à-dire, genre, vous avez déjà la montée du digital, puis ensuite
le Covid,
le Covid-19 avec l'épidémie. Et l'E3 s'en est jamais remis, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est en mode, l'E3 est annulé cette année, mais on va retrouver l'année prochaine l'E3, logiquement. Ouais. Vraiment, on pensait pas que ça allait être une mort qui était mort et enterrée, on s'est dit c'est en stand-by. Ouais. Et en plus, je me souviens, c'est une image un peu rigolote où l'E3 avait mis une affiche, l'E3 sera de retour, on se retrouve à l'année prochaine, tout ça et tout. Ils sont jamais revenus. Il y a eu quoi ? Il y a eu un E3 en ligne qui s'est très très mal passé, où il y avait beaucoup d'acteurs... d'acteurs qui n'étaient pas venus, je pense à Sony notamment.
Okay.
Et en plus, à ce moment-là, 2019-2020, on est en pleine transition générationnelle où, en fait, l'intérêt de ces conférences-là, qui étaient du coup les plus importantes parmi tant d'autres, c'est des conférences où on attend les nouvelles consoles de génération. Et tout simplement, Xbox avait fait le choix fin 2019 de présenter sa console au Game Award. Ça a été vraiment un shift majeur d'avoir une nouvelle console qui est annoncée dans une autre conférence que le 3, on la retrouve en fin d'année, en décembre, du coup, chez Geoff Keighley, Monsieur Game Award, Monsieur Summer Game Fest. Elle s'appelait Scarlet, je crois que c'est ça, Projet Scarlet, ça s'appelait comme ça, la Series X.
Ouais.
Et on l'a retrouvée en fin d'année. Et PlayStation, c'était du coup l'été 2020, lors d'un PlayStation Showcase légendaire, vraiment, où ils ont annoncé la PlayStation 5. C'était sur un PlayStation Showcase où ils avaient skip le 3 en ligne, ils n'étaient pas présents en juin, ils étaient venus en juillet avec leur propre conférence, et c'est à ce moment-là où on s'est rendu compte que les constructeurs, Nintendo, Sony, Xbox, même EA, Activision, Ubisoft, ces gros éditeurs, ils n'avaient plus vraiment besoin de l'E3, ils pouvaient eux-mêmes proposer leur propre système de communication, leur propre instance. Mm. Et le 3 s'en est jamais remis, et bah tout simplement, le 3 est encore mort et enterré.
Même avant la piste de ces nouvelles instances, pour moi, ce qui fait que aussi le 3 s'est pas relevé, tout simplement parce que du coup, quelqu'un d'autre a pris sa place. Et justement, là, tu parlais des Game Awards, donc on va parler un peu, on va passer en JeffCon 1.
Let's go!
C'est en effet donc le profil Geoff Kelly. Vraiment, on va parler de Geoff Kelly, qui voilà, donc, est journaliste canadien né en 78. De base, du coup, lui, il travaillait sur Spike TV, donc où il a produit au début des années 2000 les Spike Video Game Awards, d'accord. Donc, c'était un peu la cérémonie des Game Awards avant l'heure. C'est vraiment des cérémonies qu'il y avait à la télé comme ça jusqu'en 2012-2013.
Ouais.
Ouais, ça avait une petite popularité, ouais. Mais c'était beaucoup remis en question parce que il y avait une. Alors ça, je l'ai vérifié vite fait. Je crois qu'il y avait une question de popularité dans les votes. Sur quel est le jeu de l'année, etc. C'était pas une instance où c'est que des professionnels qui consultent et tout. Donc, il y avait une remise en question de la légitimité des prix qui étaient remis. Donc, c'est pour ça que les Spike Awards se sont finis en 2012-2013 et les Game Awards ont vu le jour en 2014. Mm. Avec, donc, je crois que c'était Dragon Age,
ouais. Inquisition 2.
Inquisition, ouais, qui avait gagné, ouais. Gauthier et tout. Donc, ça a lancé la marche. Et donc, 2019-2020, quand il y a le Covid, bah, ça laisse un vide médiatique au milieu du mois de juin. Et donc, celui qui vient combler ça, le seul et unique, c'est Geoff Kelly, avec donc, le Summer Game Fest. Et voilà, il est lancé en 2020 en pleine pandémie pour pallier justement à l'absence de l'E3. Et le Summer Game Fest, lui, contrairement à l'E3, il n'est pas géré par un syndicat de constructeurs. En fait, c'est vraiment genre une structure privée qui appartient à Kelly. C'est vraiment son bébé, en fait, on va dire. Et du coup, c'est un festival principalement numérique. C'est vrai que c'est la vraie différence principale avec l'E3, c'est que du coup, ça centralise en fait les vitrines des constructeurs, des éditeurs, comme l'a dit Swill. Donc, il y a le Xbox Game Showcase, des State of Play, il y a eu des Ubisoft Forward, Capcom Showcase. Vraiment, c'est tous les éditeurs qui, de base, prenaient l'E3 comme vitrine et comme plateforme de lancement pour des futurs titres et tout. Finalement, ils se réunissent donc au Summer Game Fest. Et ils font une espèce comme ça de mini-festival digital, numérique, pour présenter leurs jeux. Et en fait, pour moi, là, ce qui sera intéressant, c'est de parler un peu de ce modèle-là. C'est quoi cette différence avec l'E3 et pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Personnellement, là déjà, juste en termes de constat, si on devait dire ce que c'était, si vous avez jamais regardé le Summer Game Fest, c'est une avalanche d'annonces. C'est une avalanche de trailers.
Ça dure 2 heures en moyenne. Ouais.
En vrai, bande-annonce sur bande-annonce.
Ouais, ça s'arrête jamais.
Donc, c'est vraiment ça. Là, par exemple, si pour moi, on devait parler de cette année, donc il y a eu le State of Play, Xbox Game Showcase, Nintendo Direct, etc. Enfin, Nintendo Direct est un peu en marge, mais c'est la fourchette, entre guillemets, de la période. Personnellement, je pense que c'est un peu représentatif, cette année-là, cette édition, de ce que je pense du Summer Game Fest, c'est que c'est riche en annonces, mais il n'y a pas beaucoup d'émotions. C'est parce que toi, t'en penses.
Non, oui, c'est une Gatling, en fait. C'est, si là, on refait, genre, le State of Play a duré 1 heure, le Xbox Game Showcase a duré 1h15, le Nintendo Direct a duré 1 heure, et le Summer Game Fest a duré 2 heures. Donc, on en a pour 5-6 heures d'annonces, mais vraiment non-stop, où ça... J'ai envie de dire que c'est écœurant, mais vraiment, il y a vraiment ce truc de... On éteint notre cerveau et on est face à 5 heures de promotion. Sur l'espace d'une semaine. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et en fait, et on va retenir quoi sur la globalité, on va retenir qu'une minorité une poignée de titres qui vraiment arrivent à nous marquer. Et c'est quelque chose d'étrange, le Summer Game Fest, parce que comparé à l'E3, il y a vraiment beaucoup de... Ce qu'on peut appeler de slop. C'est pas pour jeter des fleurs à l'E3 où il y avait quand même beaucoup de bullshit. Hein, ou parfois, pendant... Comment je repense à des éditions de l'E3 où on nous parlait de multimédia, on nous parlait de voilà, plein de trucs, on se demande, mais de quoi ils nous parlent. Tu sais, genre, parfois, on oubliait que l'E3, ça parlait de jeux vidéo, parfois. Ouais. Mais là où le Summer Game Fest, oui, c'est du jeu vidéo, mais c'est beaucoup de pubs. Ça reste vraiment une instance de promotion où, la minute, on parle de somme à acheter. Si vous voulez une annonce de 3 minutes, faut caler un chèque à 7 chiffres, tu vois. Genre, faut vraiment avoir le portefeuille. Donc, c'est vraiment une instance de promotion à qui a le portefeuille le plus rempli et qui peut se permettre d'avoir des grosses annonces. Et donc, en fait, il y a beaucoup de remplissage dans le Summer Game Fest. Moi, je parle vraiment du Summer Game Fest de Geoff Keighley. Vraiment, je ne parle pas du State of Play, ouais, du Showcase et du Nintendo Direct. ou vraiment ces deux heures où, je me souviens, là, je prends le dernier comme exemple, où ça peut commencer très fort avec Resident Evil Veronica, le nouveau jeu de Fumito Ueda, le nouveau Cuphead. Donc, ils sont quand même des grosses annonces, des annonces majeures. Et ensuite, on part sur une heure et demie de remplissage jeu à service random de la pub, littéralement. Ça, c'est sponsor par Samsung, achète ça, achète ça, achète ça. tel service à la con, Samsung, machin. Et en fait, on se retrouve à la fin avec quand même un... Quand même, c'est un show, tu vois. Donc, il faut build le... savoir monter le truc. Donc, à la fin, il y a toujours un One More Thing ou quelque chose. Là, cette année, ça a été FF7 partie 3. Donc, ils sont pas débiles. Ils savent juger les hype moments. Et c'est très révélateur de l'édition... Dans... du jeu vidéo moderne, j'ai envie de dire. C'est vraiment des jeux en quantité, mais astronomique. Vraiment, on a des annonces, mais vraiment. Et je suis persuadé que... Et c'est un peu triste. Alors, y a la plupart des jeux qui sont montrés, la plupart, ça se trouve, ne verront même pas le jour. Il y a plein de jeux, là, je suis sûr, d'Xbox, ils ont montré peut-être sur ces dernières années, des jeux qui ont été annulés, des jeux qui... Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment une sorte de fourre-tout où vraiment, à la fin, on en ressort, mais lessivé. Et là où le 3, ça a duré vraiment, les annonces majeures duraient une seule nuit. Et en plus, c'était vraiment, je trouve, à une cadence un peu plus maîtrisée. Là
je pense
où...
que c'est le... Pardon, excuse-moi.
Non, vas-y, pas de soucis.
Je pense que pour moi, c'est le rythme du direct qui fait que le 3 était peut-être plus digeste aussi. C'est vrai que là, il y a c'est paradoxal, comme tu dis, parce que pendant très longtemps, les gens reprochaient à le 3 qu'il n'y avait pas assez de jeux, parfois. On disait, ah, il y a trop de babla, pas assez de jeux présentés du côté de Xbox, par exemple. Pendant quelques années, je me rappelle, on pouvait leur reprocher, c'est ça. Et maintenant, c'est un peu l'inverse. C'est vraiment genre, trailer sur trailer, annonce, world exclusive,
world
bam,
premier,
bam, world premier et tout. On balance les gros titres et tout. Et en fait, ça te fait presque une forme d'allitération, enfin vraiment une espèce d'accumulation comme ça, de trailers et de jeux annoncés, où à un moment donné, bah, oui, je pense qu'il y a une saturation parce que aussi les jeux se ressemblent beaucoup. On est à une époque où on a l'impression qu'il y a une espèce de moule uniforme pour que les jeux fonctionnent et soient bien présentés, pour que les trailers marchent. Si c'est du jeu à gacha, truc un petit peu genre cel shading à la Genshin et
avec
tout.
Un remix d'une musique pop des années 2000 et
ouais,
on va
c'est
la refaire pour
mode This is how we do it.
Until Dawn 2 qui est horrible et vraiment en mode vraiment il y a des trailers types, il y a des trailers types qui sont mais infâmes et en fait tout se ressemble, genre pareil là avec le marché chinois qui explose, le nombre de jeux qui se veulent un peu médiéval, fantastique.
Ouais.
Dans une Chine ou un Japon, et il y a des dragons, il y a des pouvoirs, ouais. Et ça se tape avec des sabres, et les jeux peuvent être cool, hein, je juge pas, mais juste, il y a quand même une sorte d'homogénéité qui est...
Ouh. Pendant très longtemps, c'est marrant, parce que, tu sais, on se disait un peu, on manque de jeux qui se passent en Asie, au Japon ou en Chine, et d'un coup, c'est une avalanche. Depuis peut-être, genre, quelques années, depuis aller Ghost of Tsushima et tout, où tout le monde voulait un Assassin's Creed au Japon, en fait, c'est bon.
Ouais, c'est bon, on les a.
C'est bon, c'est bon.
Les jeux sous Unreal Engine 5 et tout, mais ça vient vraiment donner une identité quand même à ce Summer Game Fest qui a quand même des qualités et c'est assez révélateur, je pense, de ce jeu vidéo moderne. Et on a aussi, du coup, les Game Awards. Et ça, c'est aussi une particularité quand même aux jeux vidéo d'avant 2020. Maintenant, là où avant, on n'avait que le 3 en été. Là, maintenant, on a vraiment tous les 6 mois une énorme conférence. C'est-à-dire, genre, le Summer Game Fest est un moment majeur, mais les Game Awards sont tout autant, voire plus.
Maintenant, oui.
Ouais.
Mais en soi, ils cohabitaient, vu que les Game Awards, c'est depuis 2014. Donc, avant, il y avait quand même quelques annonces, mais l'E3 était, entre guillemets, le gros événement.
Voilà, c'est-à-dire, ils avaient quand même le momentum, ouais, c'est-à-dire, c'est quand même le moment le plus important. Là, aujourd'hui, on est plus sur un... C'est plus équilibré, je trouve, entre juin et décembre.
J'ai une question. Est-ce que tu penses que les Game Awards sont plus gros en termes d'annonces que le Summer Game Fest?
Oui.
Okay.
Parce que... déjà, les Game Awards, même si ça c'est plus long...
Non, mais c'est intéressant, tu vois.
Je trouve que les annonces aux Game Awards sont souvent plus big parce que... le Summer Game Fest, on a l'impression que c'est beaucoup de remplissage. Genre, vraiment, on a l'impression que ça va être beaucoup de jeux éditeurs tiers. Beaucoup de jeux éditeurs tiers, ce genre de choses. Quand c'est les jeux exclusifs, ça va être chez Xbox ou chez Sony, mais aussi genre au Game Awards, comme c'est aussi un moment de cérémonie, c'est un moment aussi de cérémonie. Il y a vraiment les annonces que, par exemple, chose toute bête, un jeu comme Intergalactique ou le dernier jeu de, là, de Fumito Ueda sont des jeux qui ont été présentés au Game Awards. Pareil pour The Witcher 4. C'est des jeux qui ont été montrés au Game Awards et très souvent, j'ai l'impression que voilà, l'instance des Game Awards, elle est plus prestigieuse. Pardon. C'est quand même des annonces qui se veulent un peu plus vraiment énormes. C'est-à-dire, bon, je ne vais pas cracher sur Resident Evil Veronica, le jeu a l'air exceptionnel, mais on sent que les Game Awards, c'est quand même vraiment des jeux très souvent... les jeux qui sont présentés, ça va être les jeux de l'année. Genre, c'est-à-dire,
c'est des grosses cartouches.
Voilà, c'est des grosses cartouches qui vont être des rendez-vous au moment où ça sort, en fait.
Ne quittez pas. Vous êtes toujours sur le 93.9 FM. Vous écoutez RNG.
Je me dis quand même ce qui est assez intéressant avec le cas des Game Awards, c'est quand même la seule instance, je me demande si c'est pas un cas unique au monde, où, alors que c'est censé être une conférence, une cérémonie plutôt de récompense, on présente, on fait des instants promotionnels. Tu vois ce que je veux dire, genre, au sens où, quand tu regardes les Oscars, personne se dit « Ah, on va avoir des bandes annonces comme au Comic-Con ou au Super Bowl ». Ça, c'est pas ces instances-là, ça sert pas à ça. C'est pas pour promouvoir les prochains films. C'est vraiment pour récompenser ceux qui ont été faits l'année passée, les artistes, etc. Donc, ce qui est très particulier avec les Game Awards, c'est que, tu vois, quand tu me dis que ouais, c'est sûrement plus big que le Summer Game Fest, sentiment que je partage en plus, je me dis c'est fou parce que c'est pas censé être ce moment-là où, de promotion, en fait. C'est pas censé être un moment où The Rock vient vendre de la tequila ou du Mountain Dew, je sais pas quoi, entre deux shows avec Peggy La Cochonne qui drague Geoff Kelly sur scène. Enfin,
on n'invente rien, c'est la réalité. Hein.
Et ouais, ce que je trouve très particulier, du coup, c'est qu'ils arrivent à vraiment avoir rendu cette cérémonie-là un rendez-vous de qu'est-ce qui va sortir, c'est quoi les nouveaux rendez-vous, comme tu dis, alors qu'on est là pour voir le jeu de l'année, pour voir les meilleurs jeux d'action, d'aventure,
qui sont censés rendre hommage au médium dans l'idée.
Voilà, c'est ça. Et en fait, je pense même que s'il y avait un travers à souligner, parce qu'il y a quand même des qualités, bien évidemment, il y a beaucoup de jeux qui sont présentés, que ce soit au SGF ou au Game Awards, beaucoup de jeux présentés. Geoff Kelly, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste quelqu'un de passionné qui a travaillé pendant des années dans le jeu vidéo, qui a des contacts avec Hideo Kojima.
Un gamer certified, de malade.
Voilà, il a beaucoup de contacts dans l'industrie. Il est en bon terme avec eux, parce que c'est vraiment quelqu'un qui aime les jeux. Mais il y a aussi ce truc de à quel prix on veut mettre en avant notre culture, entre guillemets, envie de dire. Parce que, ouais, est-ce que vraiment faut sacrifier des titres de jeux de sport de l'année, jeux de familial de l'année, jeux indé, mobile, enfin,
qui sont expédiés, vraiment.
Qui sont là un peu
Elle prend la lettre, elle dit « Ah, Silksong a gagné, jeu machin, et ok, vas-y, on passe à la suite, tu vois, parce qu'il y a une autre annonce. » Et...
Genre, c'est les rares moments des Game Awards où les gagnants sont annoncés à la chaîne. Il n'y a pas de micro dit en mode « Ah, voilà, je remercie mon équipe et tout. » Non, c'est « Meilleur jeu ?» Non, non. « Jeu aussi ?» Non, non. « Streamer ?» Non, non. Et ça s'enchaîne. Et tu te dis « Ok, on prend 30 secondes même pas pour mettre 5 prix d'un coup. Par contre, si on peut passer 8 minutes avec Jordan Peele sur scène et Kojima pour parler d'un potentiel projet, mais on ne voit aucune image, on ne sait pas ce que c'est. Là, on prend le temps et tu te dis ouais, genre, c'est cool d'avoir Jordan Peele, mais s'il y a Miyamoto sur scène, ou le mec qui avait fait le directeur créatif de Zelda Teoteka, était là pour parler, et tu sais, ils mettent le « Please wrap it up ». Tu dis, le poteau, c'est quand même un développeur légendaire, il vient de faire un jeu de l'année, un des jeux de l'année, et on lui dit « Oh là, il y a The Rock qui passe
accélère,
après toi. »
Accélère, chef, ma gueule.
C'est ça, s'il te plaît. Vois. Donc, je trouve que c'est un peu le paradoxe de cette cérémonie. Après, il y a un cas de figure que j'aimerais évoquer, qui est que donc il y a Summer Game Fest, tout ce qui est donc les bails de Geoff Kelly. À côté de ça, il y a une conférence avec celui qu'on voulait vite fait évoquer, qui est donc la GDC, la Game Developers Conference, et qui est un peu l'alternative académique, en fait.
Oui, je suis super d'accord. La GDC qui est vraiment hyper intéressante. L'un des meilleurs conseils que je pourrais donner, je pense, ce serait d'aller juste sur leur chaîne YouTube et de voir parce que je sais qu'il y a des prix qui sont rendus à la GDC chaque année, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi une instance aussi de recherche où il y a beaucoup d'articles qui est proposé ou des conférences où on va inviter des développeurs. Moi, je pense à la GDC où ils ont invité Kurvitz, j'ai oublié son prénom, créateur de Disco Elysium, voilà, tout simplement, où pendant une heure, il parle de world building. Et c'est vraiment une heure où, voilà, où si c'est des... Vraiment, où si le jeu vidéo vous intéresse, vraiment, en tant que voilà, ça vous intéresse vraiment d'un point de vue, je sais pas, en termes de recherche, il y a vraiment des éléments du jeu vidéo qui vous intéressent. Au-delà de c'est un trailer, ça a l'air cool comme jeu. Regardez la GDC où, voilà, j'ai envie de s'y parler de world building pendant une heure, c'est hyper intéressant. Où il va y avoir vraiment des... Je sais que c'est disponible sur YouTube, des formats un peu ouais. essais, où voilà, vous avez des articles, où ça va parler de level design, de sound design, ce genre de choses. Donc, vraiment, vraiment hyper ouais. intéressant.
Bah, en fait, c'est ça, c'est ce qui est intéressant. Déjà, je vais te noter, ce qui est assez rigolo, c'est que ça a été fondé en 88 par un mec qui s'appelle Chris Crawford, travaillait chez Atari. Et la première édition qu'il a fait de la GDC, elle était dans son propre salon en Californie avec 25 concepteurs genre game okay, designer. Et le mec, vraiment, il était en mode, eh, vas-y, en vrai, le jeu vidéo, c'est cool. Apparemment, il a fait un ouvrage où il parle de game design. C'est un des premiers à avoir un peu conceptualisé, justement, de réfléchir à comment on fait des jeux vidéo, comment tu réfléchis un peu le médium. Exactement. Et du coup, il a déménagé après à San Francisco. Et donc, c'est vraiment ouais, un salon professionnel où, de base, c'est pas censé être commercial, en fait. Je pense que c'est ça l'élément important à retenir. C'est que c'est pas là pour vous vendre un jeu, c'est pas là pour vous vendre quelque chose, c'est vraiment pour échanger entre passionnés, pour qu'eux, ils se récompensent, qu'ils aient un espace. Et du coup, en tant que joueur, je trouve que c'est fascinant de voir ça de loin, de se dire, ah bah les mecs qui participent à forger un peu votre médium, ce que vous aimez jouer, faire et les jeux que vous aimez jouer, bah ils sont là, ils se réunissent, ils disent, eh vous savez quoi, on va vous parler du moteur graphique de... chez Ubisoft, là c'est le moteur Snowdrop Engine de Ubisoft, bah, ils vont faire une présentation par exemple d'une heure et demie, pareil, pour présenter en termes de budget, de frame time, donc combien de temps ça doit prendre pour rendre les feuilles, le vent, la physique, en mode ok, comment on a fait ça pour optimiser une version Switch 2, console, PC et tout, et tout plein de développeurs vraiment passent comme ça pour vous dire ok, voilà comment on a fait tel jeu, comment on a abordé tel ou tel problème technique, et ils passent comme ça pour vous définir comment on a abordé tel ou tel problème technique et tout. Et c'est vraiment passionnant. Moi, c'est comme ça que j'avais appris que pour Doom The Dark Ages, donc développé par ID Tech, ils avaient, avec leur moteur, travaillé pour faire le jeu en full ray tracing, et que s'ils n'avaient pas, ils n'étaient pas passés par cette méthode de rendu, le jeu aurait peut-être pris 2 ans de développement en plus, en fait. Et c'est hyper intéressant qu'ils vous disent, voilà pourquoi on fait tel choix, voilà pourquoi on fait ci, on fait ça. Souvent, les joueurs, ils sont là en mode, ah, mais pourquoi ils ne font pas telle ou telle chose ? C'est intéressant de voir la GDC, parce que justement, c'est les développeurs qui vous parlent et qui vous disent, eh, vous savez quoi ? Nous, en fait, voilà comment on a abordé tel problème. Donc, ils ont leur propre prix. Voilà, vraiment les Game Developer Choice Awards. Ensuite, un autre élément que je voulais aborder, c'est que voilà, ils partagent donc des analyses sur ce qui a fonctionné ou échoué durant la programmation d'un jeu. Et ce qui fait qu'en fait, pour moi, c'est peut-être le bail le plus respectable. Et l'exemple que je me suis pris par rapport à ça, c'est que donc, dans le dernier épisode, on a critiqué Nvidia par rapport à ce qu'ils avaient fait avec le DLSS 5. C'est intéressant de voir qu'à la GDC, ils ont parlé du DLSS, mais ils ont surtout parlé Path Tracing, avancée technologique avec les GPU et tout. Et en fait, pour moi, c'est extrêmement représentatif de ce que représente et de ce que préserve la GDC, c'est que Nvidia en a plus rien à foutre, entre guillemets, des GeForce, des RTX et tout. Ils vendent beaucoup plus des GPU pour de l'IA, pour de OpenAI,
supercomputers, ce genre de choses.
Donc maintenant, le jeu vidéo, c'est plus vraiment leur marché principal. Et pour autant, donc, il y a la GDC, et bah, il y a des mecs de chez Nvidia qui viennent, qui prennent une petite heure et quelques pour parler jeux vidéo, pour parler de leur optimisation avec le DLSS, mais pas le DLSS 5, en mode vraiment le 4.5, le Path Tracing, dire, ah, on travaille avec tel ou tel développeur, on essaie de trouver de nouvelles solutions pour le denoising dans le ray tracing. Et c'est hyper rare actuellement de voir Nvidia parler jeux vidéo. Chaque année, que ce soit au CES ou là à la keynote où ils ont annoncé le DLSS 5, ils parlent vraiment de tout sauf ça. Beaucoup IA à 80-90%. Et donc, avoir un moment où Nvidia est présent sur un salon, mais ils disent, on est là pour parler jeux vidéo, on parle que jeux vidéo, parce que c'est ça. C'est ça. C'est un peu un dernier rempart de, ah, quand même, ils n'ont pas oublié.
Ils ouais, sont aussi ils là n'oublient pas ça. D'où ils viennent, tu sais, genre. Ouais.
Donc, je trouve que c'est cool d'avoir une instance qui, malgré tout, arrive à résister depuis sa fondation et vraiment bah, tient le coup, quoi.
Je pense que moi personnellement, je trouve la plus grande perte dans tout ça, c'est un peu le manque du direct. Je sais que j'en parlais aussi un peu au début, mais le fait d'avoir une instance, un moment, un show avec quelqu'un en live, moi je sais qu'il y a des moments, je repense à, par exemple chez Nintendo, Je crois, je sais plus c'est quelle année, mais Nintendo dévoilait le Wii Fit, tu sais, le sort de truc Wii là, pavé,
ouais, vois, la balance.
Pour faire la balance pour faire du sport. Et en fait, ils avaient pris Reggie Fils-Aimé, qui était le président de Nintendo USA à l'époque. Et en fait, il a eu un moment où en fait, il montait sur sur le Wii Fit et il a dit mon corps est prêt, my body is ready. Et il y a eu genre un silence de 10-15 secondes. Et c'est devenu vraiment un mème sur Internet où vraiment où la phrase My body is ready et vraiment t'as un silence dans la salle de 15-20 secondes et vraiment ce genre de moment un peu à la bête. Il y avait un côté genre vraiment sincère et on peut rentrer dans les analyses post-modernes du jeu vidéo, post-ironique, on manque de sincérité dans la communication, ce genre de choses. On pourrait le faire, mais j'ai l'impression qu'on le fait tout le temps, du coup j'ai la flemme. Ouais. Mais je pense que c'est assez dommage qu'en fait, surtout, je pense beaucoup aussi au travail du journaliste, quand il y avait ce genre de conférence-là qui était réservée aux professionnels, il y avait vraiment un travail de reportage de l'information de la part des journalistes de jeux vidéo. Il fallait que les... Moi, je me souviens à l'époque, en 2010, quand il y avait l'E3, les journalistes y allaient, revenaient et nous disaient « Ouais, j'ai pu essayer tel jeu pour un truc. » Je pense à Jason Schreier, tout simplement, qui, en 2019, il y avait une démo de Silksong à l'E3. Et l'E3 était fermé au public. Et il y avait vraiment voilà, des journalistes qui avaient essayé le jeu. Les images n'avaient pas le droit d'être divulguées. Mais il y avait du coup l'importance du travail médiatique de la part de la presse pour aller chercher l'information et ensuite la ramener au public. Il y avait vraiment une sorte de construction, de réseau entre le public, les médias et les constructeurs, les éditeurs, ce que tu veux, l'industrie en fait. Et donc il y avait quelque chose, un rapport que je trouve un peu plus sain en fait. Dans cet aspect-là où moi je me souviens même chez jeuxvideo.com le fait qu'il y ait des reporters sur place qui revenaient en mode ouais, j'ai pu tester, je sais pas moi, un mec qui va tester le dernier Call of Duty, et ça crée de l'intérêt du coup à ces salons-là, même en France. Je pense que la mort de la Paris Games Week est assez révélateur de la perte de l'intérêt de ces salons en fait. Aujourd'hui la Paris Games Week y a plus vraiment de jeux vidéo, c'est un endroit où tu rencontres je sais pas tes influenceurs préférés. Mais il y aura un stand Nintendo où tu peux jouer aux jeux Nintendo actuels, il y aura un stand PlayStation où tu peux jouer aux jeux PlayStation actuels, mais il n'y a rien qui est présenté.
Oui, ça, c'est des jeux qui sortiront d'ici un ou deux mois,
voilà,
max.
Là où avant, je sais pas, EA, quand ils présentaient un Battlefield, bah putain, on essayait Battlefield 3 en avance, Hardline en avance, et il y avait un show, il y avait quelque chose, et ça c'était vraiment un moment où si la marque en question arrivait à créer un momentum, arrivait à créer quelque chose d'unique qui se passe uniquement au salon, ça donnait de l'intérêt à ce qui était présenté. Aujourd'hui, comme c'est des shows qui sont hyper aseptisés, hyper contrôlés, montés à la minute, où c'est pensé genre pour que les state of play, surtout les state of play, j'ai l'impression pensé pour que les streamers qui regardent le stream puissent créer des moments sur TikTok, ce genre de choses, c'est vraiment dommage. Genre, je pense que ces salons-là avaient beaucoup de défauts. Je suis pas là pour, en mode nostalgie, à remettez-nous le 3. Mais je pense que, purée, on a échangé tout ça pour quand même des problèmes qui sont juste modernes, en fait. Et ces conférences actuelles, voilà, on a eu ce qu'on voulait. C'est-à-dire que du JV. Mais derrière, il y a un sur-contrôle de la part des marques sur ce qui est présenté. Où, en fait, on a du mal vraiment à engager. Même quand il y a quelque chose qui peut nous hype. Je pense, je sais pas, moi j'ai beaucoup aimé la présentation de God of War, Hill, par exemple, le nouveau jeu d'horreur. Mais il y a quand même du coup une sorte de méfiance qui va se créer aujourd'hui avec la présentation des jeux. Le 3 a quelques responsabilités là-dedans. Je pense que c'est beaucoup, voilà, t'as parlé de Watch Dogs, de Cyberpunk, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, il y a...
Ouais, mais je pense qu'il y a ce truc un peu de... Excuse-moi de t'avoir coupé.
Non, vas-y, continue.
Il y a ce truc un peu de... Ouais, il y avait le côté machine à rêve de le 3, c'est vrai. Mais tu avais une transparence du fait que les professionnels étaient sur place. S'il y avait des démos ou des présentations de jeux, genre, moi je me rappelle qu'à l'époque, ce qui est fou, hein, c'est quand il y avait Cyberpunk 2077, il y avait une démo fermée qui était présentée aux journalistes. Ils pouvaient pas toucher la manette, je crois. Juste on leur présentait le jeu, vraiment, il y avait un mec qui jouait et tout. Et c'était genre une demi-heure ou 40 minutes. Et tous les journalistes qui avaient vu le jeu avaient dit « On vient de voir un truc, on n'a jamais vu ça de notre vie. » Et ça avait participé un peu à la hype, parce que, ok, tu vois...
C'est un journaliste qui te dit ça, c'est pas
un... Et t'as un mec qui te dit, en effet, en closed doors, je suis là avec des devs, on me présente quelque chose, je le vois tourner, je me dis « La vache, j'ai pas vu ça. » Et le jeu est sorti, et au début, c'était pas bien. Enfin, c'était compliqué, tu vois. Mais ça participe aussi d'une forme d'aura, de mystère, de qu'est-ce qu'ils ont pu voir, qu'est-ce qu'ils ont imaginé, et tout ça. Là où maintenant, ce que tu vois, c'est ce que t'as. Par exemple, Nintendo a annoncé donc, le remake de Zelda Ocarina of Time. c'est fou que les... Là, je parle juste des youtubeurs, mais tu sais, genre, ils se mettent vraiment sous la dent. Il y a une... Je crois qu'il y a une petite note qui a été ajoutée à la page en mode redécouvrez le chef-d'œuvre de chez Nintendo avec des visuels refaits, un gameplay réimaginé et tout. Il y a des vidéos de 20 minutes pour te parler de ces 4 lignes phrases, ajoutées à la page, tu vois. Et en fait, tout le monde se met ce truc-là, et donc t'as plus le truc de, peut-être d'aller chercher un peu des articles, des news, parce que toi, t'as pas vu quelque chose que quelqu'un d'autre a vu. Sinon, on a tous vu la même chose, personne n'a fait d'autres présentations du jeu, et c'est genre, bon bah, ouais.
Parce que le travail du journaliste, en fait, il est mis à la poubelle, en fait, avec ça, en fait. C'est-à-dire, il n'y a plus vraiment de recherche, il y a vraiment un travail dont j'ai envie de reprocher aux médias du JV, mais si, je vais le faire, allons-y. Reprochons aux médias du JV. Il y a vraiment un problème de recherche et vraiment d'investigation, en fait. Mais quand tout ce qui est présenté est vraiment hyper contrôlé par, je sais pas moi, Nintendo, Xbox, n'importe qui, en fait, bah, il y a quelque chose de... voilà, je pense à des, je sais pas, un mec comme Julien Chaise, en fait, il va faire une vidéo sur le State of Play, il va juste lire l'article de présentation, je sais pas, de God of War Low Fate.
En fait, il devient un relais commercial, en fait.
Voilà, juste il lit des trucs, en fait. Et il y a vraiment un problème là-dessus, je pense que c'est assez frustrant, comparé à d'autres années.
Mais je pense que c'est ce rapport-là, un peu de ça... En fait, ça aseptise, en fait, le rapport qu'on a aux jeux vidéo. Je pense que c'est pour ça qu'on est moins hype aussi. Si on devait vraiment un peu synthétiser, et c'est là la conclusion qu'on tire depuis quelques minutes, que, ah bah, c'est pas moins bien, mais c'est différent, c'est que dans cette différence-là, il y a un truc beaucoup moins tactile. Et ça peut paraître bizarre, parce qu'en soi, le 3, j'y suis jamais allé, Switch non plus. La Gamescom, pareil, même si ça vient encore et tout. Pas Games Week, si, plusieurs fois. Et c'est pas hyper bien. Mais... c'est pour dire qu'il y a un truc où quand tu voyais le 3, quand tu vois la démo de Uncharted 4, qui le mec a sa Dual Shock qui marche plus, donc Nathan Drake bouge pas, et d'un coup il arrive à reconnecter la manette, il se met à se déplacer dans la foule, tu te dis, ah oui, cette démo technique, qui est encore impressionnante 10 ans après, tu te dis, ah oui, ça tourne vraiment sur une PS4 en fait. Et c'est aussi des moments qui pour moi c'est juste surréaliste parce que c'est drôle, c'est presque du spectacle vivant quand t'as Snoop Dogg à la bêta de Battlefield 1. Qui est là en train de fumer un ouinge et vraiment de jouer avec d'autres influenceurs, ouais. Streamers et tout, tu dis, ok, c'est rigolo parce que ça n'a pas de sens et c'est juste un moment, genre, ouais, un moment un peu Régis Fils-Aimé où tu dis, là, ce que je vois, ça va être un peu iconique, c'est un peu culte, c'est drôle. Il n'y a plus ça avec le Summer Game Fest. En fait, tout est contrôlé, comme dit Swill, c'est tellement checké, double checké, triple checké pour que tout soit assez lisse, pour qu'on soit sûr que la présentation se déroule bien comme il faut. Que les marques soient sous leur meilleur jour possible et imaginable. Et je pense que c'est ce qui faisait que l'E3, en tout cas moi, ça me manque un petit peu. C'est que, bah, ouais, tu voyais des grands noms du jeu vidéo qui devaient s'essayer un peu à l'exercice oratoire. Genre vraiment de présenter, de te vendre quelque chose. Et on était dans la combine. Évidemment que on sait c'est promotionnel, l'E3. Enfin, c'était promotionnel. Mais... on était un peu dans une espèce d'accord tacite de « vas-y, essaie de me vendre ton truc et moi, si ça me plaît, je l'achète, tu vois. » Là où maintenant, c'est genre, je sais que j'ai un car salesman, vraiment un mec qui est là pour me vendre sa voiture là, et tout, et me dire « ok, c'est la meilleure voiture que tu pourras jamais avoir, sauf que j'ai aucun moyen de, entre guillemets, d'engager avec la conversation, de vérifier s'il est sincère. » C'est genre, je sais que c'est lisse, poliché, de A à Z, alors que quand t'avais un Todd Howard sur scène à un E3 qui disait « It just works !»
60 FPS, ça marche, t'inquiète.
Je me disais, il se fout de ma gueule, mais j'aimerais bien qu'il le fasse devant tout le monde. C'est genre, qu'il parade un peu et tout. Et c'est pas genre, il est dans son cocon, il est... C'est genre, tout le monde est trop... Il y a une espèce de filet de sécurité où tout est trop safe, en fait. Et du coup, il n'y a pas d'enjeu à présenter un titre parce qu'il n'y a pas de prise de risque. Parce que finalement, c'est une conférence que vous contrôlez, donc il n'y a pas de prise de risque.
Et si je peux rajouter, c'était aussi à l'E3, c'était des conférences qui se répondaient entre elles. Ça, c'était vraiment quelque chose où la pire chose qui puisse arriver pour un constructeur Nintendo, Sony ou Xbox, c'est de passer en premier. C'est ce qui s'était passé avec Xbox et Sony, où Xbox s'était passé avant. Et du coup, on a vu, c'est une réponse de Sony à Xbox face à tout ce qui est montré. Du coup, il y avait vraiment un truc de... C'était des changements à la dernière minute. Il fallait faire un clip avec Shuhei Yoshida qui donne un jeu à un mec et disait « Ah, regarde, c'est comme ça qu'on prête des jeux sur la PlayStation. » Parce qu'il n'y avait pas de DRM. Et ces moments-là, tu sens que c'est genre fait à l'arrache 2 secondes avant, mais c'était vraiment... Tu sentais que c'était sincère. Et du coup, ce côté limite un peu improvisé, il n'existe plus. Il n'existe plus. Et c'est rageant. C'est rageant. Si tu veux conclure, je sais pas si en quelques mots...
Pour moi, s'il fallait conclure, du coup, les premières conférences populaires comme l'E3, en fait, elles avaient un peu ce sel que n'ont plus les State of Play ou Xbox Showcase, et c'est cette capacité d'être une grande messe pour les joueurs. C'est pas tant les annonces qui étaient supérieures hein, que l'enrobage, la foule en délire, les fails sur scène, vraiment le présentiel jouait de l'aura de l'événement. Et je me rappelle que, bah, ouais, genre, en fait, quand tu vois les images de Keanu Reeves balancer le Your Breathtaking, comme on l'a dit, ou Snoop Dogg, ou Reggie Fils-Aimé, ou Todd Howard, ou Hideo Kojima qui dit I'm back quand vraiment il a été licencié par Konami. Ça, c'est des moments qui sont extrêmement forts. Et je reconnais personnellement, tu vois, genre comme toi, je pense, l'effort de Geoff Kelly de faire vivre le JV à travers les moyens qu'il a, qui sont quand même assez spectaculaires. Et il essaye, tu vois, de mettre en avant une
et parfois, ça marche.
Communication.
Parfois, voilà. Ça marche.
Donc vraiment, il essaie de faire une place pour le jeu vidéo, pour quand même aussi des petits studios, des petits indés. Il essaie de varier vraiment les propositions. Il a quand même eu sa cartouche Highguard au Game Awards, où, comme tu disais, je pense qu'il avait vraiment...
Il avait espoir là-dedans. C'est
voilà.
Ça.
Mais pour moi, il y a un peu ce truc où, genre, malgré ça, et là, c'est un peu une parenthèse large, mais je pense que c'est pour définir pourquoi il y a un côté mercantile et trop... qu'est-ce que ça nous coûte, en fait, ces conférences. C'est que, genre, malgré ça, malgré les streams par exemple caritatifs comme les Z-Event, genre ça c'est pour vous parler du jeu vidéo en large, il y a un truc où peu importe les levées de fonds que soulèvera le jeu vidéo, la thune que ça va brasser en termes de vente, s'il y a le moins de drame genre de school shooting ou autre, il y a le président de la République qui à chaque fois vous célèbre en disant « Ah les gars, bien joué pour le jeu vidéo et tout », il va vous dire « Est-ce qu'il ne faut pas faire une étude sur l'impact des jeux vidéo sur la jeunesse ? Est-ce que le jeu vidéo... c'est pas trop violent. Est-ce que c'est vraiment pas un truc de nerd en marge, etc. » Donc, pour moi, faut essayer de... Là, ma conclusion avec ça, c'est de dire, arrêtons d'essayer d'être légitime à travers ces conférences-là. Le jeu vidéo est légitime par essence. On y joue, on aime ce médium, il y a la GDC qui est là pour ça. Le Summer Game Fest ou les Game Awards, c'est des moments où, en fait, on se prostitue un petit peu pour dire, vous avez vu, on est un vrai art, on est un vrai médium. Quand t'as genre du Timothée Chalamet, Al Pacino, qui genre presque sénile sur scène, qui dit « What's happening ?» C'est vraiment parce que on veut rendre le truc légitime, en mode « Regardez, c'est comme
regardez,
le cinéma. »
Regardez, il y a Harrison Ford pour Indiana Jones.
Ouais, tu vois. Et c'est un peu genre, c'est cool, mais on n'a pas besoin de ça. Et c'est ce qui fait aussi que c'est des prix exorbitants. Genre, je sais pas si on a évoqué que l'E3 aussi coûtait apparemment hyper cher.
Ah oui,
pour les constructeurs, éditeurs, de passer sur le salon. Mais il y a un truc avec le Summer Game Fest et les Game Awards où, quand tu les vois, tu te dis, il y a un coût derrière tout ça. Il y a un coût de se faire parjure un peu. En mode, en tant que joueur, faut qu'on vende un peu notre image. Faut qu'on ait un peu voilà, du temps d'antenne pour des boissons énergisantes, des acteurs, des trucs. Faut qu'ils nous prêtent un peu de leur aura à eux pour nous rendre légitimes. Et je me dis, c'est dommage, en fait. Faut arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Et pour moi, c'est le problème de ces conférences-là, c'est à vouloir plaire à tout le monde, on plaît à personne. Et c'est des conférences qui ont perdu de la sauce parce que tout simplement, elles perdent un petit peu de vue l'objectif principal qui est de « on veut être excité par des jeux ». Et c'est pas genre voir des jeux, c'est être excité par des jeux. On veut voir des gens qui sont contents de faire du jeu vidéo, on veut voir des gens qui ont envie de jouer à des jeux. Et si tu me fais une image, tu sais, genre un teaser plein écran, 16/9, d'un jeu qui a l'air cool, mais où personne n'a l'air content et excité à l'idée d'y jouer, bah en fait, mon expérience, elle est juste très solo. Et là, c'est très un paradigme de notre époque de c'est moi face à mon écran sur Discord. Et la seule hype que j'ai, c'est d'entendre genre Swill et des copains faire « Oh mon Dieu, c'est God of War !»«
C'est Rayman !»
C'est ça. Et je pense que, ouais, c'est ça. Le moment de la fin, c'est on a juste envie de vivre Discord avec les vraies salles de conférence qu'il y avait à l'E3. Genre moi, j'ai rien contre Geoff Kelly, mais ça me manque de pas avoir un événement en présentiel et qu'il soit un peu moins putassier que ce qu'il fait actuellement. C'est bien, mais il y a une marge de manœuvre où je pense que ça peut que être mieux.
Ouais.
Je sais pas si c'était une bonne conclusion. Mais...
C'était une excellente conclusion. Encore une fois, RNG, gaming moderne et tout ce qui va avec. Qu'est-ce qu'on s'amuse et qu'est-ce que ça fait du bien d'être de retour sur Radio Campus Paris 93.9 FM. C'était RNG. On se retrouve à présent dans un mois. Pour le 30e épisode, waouh, et ça va être un épisode spécial. Passez un excellent été, jouez à des jeux vidéo, faites-vous kiffer.
Hydratez-vous.
Hydratez-vous parce qu'il fait chaud. Kiffez. Peut-être là bientôt il y aura une bande annonce de GTA, on sait pas, bientôt. On en a même pas parlé de ça, genre au Summer Game Fest, le fait que tous les jeux, tu sais, genre ils sont tous en août, en septembre, et genre tout le monde essaie de se prendre, tu sais, genre des places dans le planning, parce qu'il y a, le mammouth là en novembre.
Ouais.
Peut-être qu'on en reparlera bientôt, on sait pas. Mais en tout cas, voilà, c'était RNG. Encore une fois, Radio Campus Paris, 93.9 FM. Passez une excellente soirée. Merci Ulysse.
Merci à toi, Swell.
Et je vous souhaite à tous un excellent été. Bisous, au revoir.
Ciao.
Vous êtes bien sur le 93.9 FM, vous écoutez RNG.
First, the basics of particle blast deflection. Dude, I could beat gaming.